France Musique. Il est 7h30, bonjour et bienvenue dans France Musique est à vous. Nous y voilà, 1h30 de programmation musicale, uniquement concoctée par vous. Ce rendez-vous du samedi matin où nous écoutons vos suggestions, vos récentes découvertes ou votre disque de chevet, venez vous confier, nous écoutons ici vos histoires, vos grandes émotions musicales. Alors pour nous contacter, pendant le direct ou pendant la semaine, jour et nuit, sur les réseaux sociaux de France Musique, et notre adresse mail, francemusiqueestavous@radiofrance.com. Quand l'inspiration vous vient, c'est à France Musique est à vous qu'il faut s'adresser. Nous vous offrons des cadeaux également à 7h50. Ce matin, un jeu pour tenter de gagner des invitations pour le concert de Barbara Hannigan, salle Gaveau à Paris, ce lundi 27 septembre. Concert qui ouvre la saison de l'instant lyrique. Et donc, ce jeu à 7h50. Nos deux chroniqueurs, aujourd'hui à 8h, une œuvre, trois idées. Marc-Olivier Dupin s'intéresse à un répertoire qui sort du classique, quoique l'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Et à 8h50, tendez l'oreille avec Christophe Dillis, qui ce matin, lui, va nous faire écouter la musique atonale de Brahms et Chopin. Curieux, mais c'est bien du Christophe Dillis. Et tout de suite, votre programmation, nous la débutons avec Mathieu, qui nous propose le prélude de la suite numéro 6 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach par Jean-Guyenne Queyras, qu'il a eu le plaisir d'entendre en résidence à l'Arsenal de Metz il y a quelques années. Mathieu, qui nous a contacté par mail, célèbre ses 28 ans aujourd'hui, mais ce titre, cette interprétation, il l'adresse à l'un de ses amis, facteur de clavecin et accordeur de piano. Mathieu a une jolie histoire à nous raconter, écoutez plutôt. La dernière fois que je lui ai rendu visite à cet ami dans sa Normandie natale, j'espérais lui offrir cet enregistrement des suites pour violoncelle. Mais distrait que je peux l'être parfois, j'oubliais de l'emporter dans mes bagages avant de partir. Alors j'espère que cette écoute lui en donnera un avant-goût, grâce à votre émission, dans l'attente d'une visite prochaine où j'apporterai enfin ce disque. Sans doute l'écoutera-t-il avec moi, avec nous, affairé dans son atelier où la musique respire, dans les instants de silence.
Thank you.
Prélude de la suite numéro 600, Ré majeur, BWV 1012 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Jean Guillen. Keras, une suggestion de Mathieu, et bien comme lui, vous aussi, vous pouvez nous suggérer ce que vous souhaitez écouter ce matin ou un prochain samedi, encore au lit ou pourquoi pas en allant au marché. Nous sommes là pour ça. Merci pour vos premiers mails qui nous arrivent. Myriam dans Lyon, Jacqueline, Catherine ou encore Jean-Marie. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos messages, comme sur un répondeur, une confidence nocturne ou un message en allant au travail. Vous vous enregistrez sur votre téléphone, par exemple, et vous nous dites ce que vous aimeriez écouter avec vos mots, votre timbre de voix, vos clés d'écoute qui nous sont originales, sensibles, bienveillantes et indispensables pour ce partage. Aujourd'hui, Valérie, un souvenir d'enfance et de cours de danse. René, pour nous parler d'une pianiste japonaise qu'il affectionne beaucoup. Et puis tout de suite, le message de Jean-François des Isambres dans le Var.
Alors, la première fois que j'ai entendu Léa Desandré, c'est dans Vivaldi, avec l'ensemble Jupiter, et là, j'ai été subjugué, je dois avouer, par sa voix. Et Voix qui s'appelle est pour moi une sorte de petit miracle mozartien, parce que cet air me donne le moral quand il est en baisse, et puis, contrairement, il me réjouit quand tout va bien. Je souhaite le même petit bonheur à tous, parce que c'est carrément thérapeutique. Merci pour cette musique qui donne un peu de sourire à la vie.
Thank you.
La romance L'air de Chérubin, Voi che sapete, extrait des Noces de Figaro de Mozart par la voix de Léa Desandré, accompagnée par l'Insula Orchestra, dirigée par Laurence Equilbet. Léa Desandré qui sera en concert ce mardi 28 septembre, dans quelques jours, à la Philharmonie de Paris, avec l'ensemble Jupiter dont nous parlait Jean-François dans son message, et également le contre-ténor Yestine Davis. Tout de suite avec nous, Yann en Loire-Atlantique. Bonjour Yann.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Eh bien, bienvenue dans l'émission. Je sais que vous étiez déjà venu au tout début de France Musique est à vous, il y a quelques années. Aujourd'hui, vous avez 41 ans. Vous êtes directeur financier d'une association. Dans quel domaine ?
Oui, effectivement, j'ai passé il y a 3 ou 4 ans. Je te reviens dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance et du secteur du handicap. Enfin, c'est une association qui intervient donc, sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine.
D'accord.
Qui accompagne les enfants dans les établissements.
Et alors, votre rapport à la musique, je sais que vous êtes un grand passionné de Mendelssohn. Est-ce que cet été, vous avez pu assister à des concerts, des festivals où Mendelssohn, la musique de Mendelssohn a été interprétée devant vous ?
Alors, oui, effectivement, j'étais du côté de Ranatuel cet été, où il devait y avoir un concert avec la Philharmonie de Nice, une programmation avec l'orchestre, mais en fait, le programme qui devait présenter la symphonie italienne, en fait, était annulé du fait du Covid. On n'a pas assisté au concert, mais on a passé un excellent séjour dans ce coin-là, enfin, qui est évidemment un magnifique coin de France.
Alors, Yann, vous êtes un grand fidèle de l'émission. On a souvent vos suggestions musicales. Ce matin, là, vous nous proposez une œuvre de Camille Saint-Saëns, son Septuor pour cordes, piano et trompette, son opus 65, et puis précisément le menuet de ce Septuor. Pourquoi ce choix ce matin, Yann ?
Donc comme vous l'avez dit, j'ai 41 ans, j'ai grandi fin des années 80 un petit peu à la maison avec des musiques de publicité ou des musiques de films qui a un petit peu éveillé ma culture musicale, si je peux dire. Et puis, c'est une petite madeleine, c'est-à-dire que c'est une musique de Saint-Saëns que j'ai entendue au détour d'une publicité. Et puis, c'est que bien plus tard, en fait, que en l'entendant à la radio, que j'ai su que c'était une musique de Saint-Saëns. Et peut-être qu'effectivement, du coup, parmi les auditeurs, il y aura aussi cette madeleine. Et puis, c'est une musique que je trouve très, très, très belle, très parlante. Il y a une première partie un petit peu, sous forme de fanfare un peu débraillée, un petit peu loufoque, dans mon esprit, un petit peu enfantine. Et puis, il y a une partie intermédiaire, un trio qui est, la musique qui a été utilisée sous forme de publicité et qui est un très bel hymne, très, très, enfin, très, très élégant. C'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire comme musique.
Alors, nous allons le partager avec vous. Merci beaucoup pour vos mots, Yann. La version de ce Septuor, du menuet de ce Septuor par les musiciens de l'Orchestre de Paris et Laurent Vachal au piano. Un grand merci et très bonne journée. Bon week-end. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup à vous pour vos émissions. Bon week-end, bonne journée à vous. Au revoir.
À 7h48 sur France Musique, un compositeur dont nous célébrons toute l'année le centenaire de sa disparition, Camille Saint-Saëns, le menuet de son septuor en mi bémol majeur, opus 65, avec les musiciens de l'Orchestre de Paris et Laurent Vachal au piano. Et comme chaque samedi, un jeu pour vous offrir des cadeaux France Musique tout de suite. Ce matin, des places de concert, des invitations pour les franciliens plutôt. Alors ne vous inquiétez pas, promis, d'autres invitations pour des concerts dans toute la France à gagner tout au long de l'année. Ce matin, donc, des places pour le concert de l'ouverture de la saison de l'Instant Lyrique, celui de la merveilleuse soprano Barbara Hannigan, Salle Gaveau à Paris. Ça se passe ce lundi 27 septembre, dans deux jours, avec le pianiste Michaelis Boliakis et la participation d'autres chanteurs, comme Jeanne Gérard d'ailleurs, pour son projet Momentum, qui soutient les plus jeunes musiciens professionnels. Une initiative donc de Barbara Hannigan. Alors la question, la voilà, Barbara Hannigan va chanter entre autres ce soir-là, ce lundi, une mélodie de Poulenc. Et de Poulenc, elle avait déjà donné une version époustouflante d'une tragédie lyrique en un acte. Au chant et à la direction, quel était ce titre ? Barbara Hannigan était au chant et à la direction de la tragédie lyrique en un acte de Poulenc. Quel était le titre de cette œuvre de Poulenc ? Si vous êtes disponible, que vous avez envie d'assister à ce concert de Barbara Hannigan ce lundi 27 septembre à Paris, vous nous envoyez votre réponse via l'onglet « Contactez-nous » sur la page de notre émission « France Musique est à vous ». Sur le site francemusique.fr. Quant à moi, je vous donnerai la réponse juste avant 9h. On vous laisse donc un peu de temps pour jouer si vous souhaitez aller à ce concert.
Ein Mädchen oder Weiden wünscht Papagenosi. Oh, so ein sanftes Teutel der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich. Da
dann schmeckte mir trinken und essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein, im Elysium sein. Ein Mädchen oder Weiden wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Teufel, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Ach, kann nicht denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann nicht denn keiner gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Sanftes Teufel, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. So bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund.
C'était une proposition de Paul Yorset sur Twitter, la flûte enchantée et cet air ein Mädchen oder Weibchen, l'air de Papageno avec la voix de Dietrich Fischer-Dieskau. Ici en Papageno, le baryton avait 30 ans. C'était un enregistrement légendaire, on est en 1955. Il est accompagné par l'Orchestre Symphonique du Rias de Berlin, dirigé par Ferenc Fricksheil. Et nous avons reçu également plusieurs messages, dont un de Jean-Claude qui nous parle de la triste disparition de Jean-Patrice Brosse. Jean-Claude est heureux de retrouver notre émission, occasion pour lui et pour l'auditeur de partager la musique qu'il aime. C'est aussi l'occasion d'être au plus près de l'actualité de nos chers artistes musiciens. Et ces jours-ci, donc, l'actualité d'humeur triste avec le décès de Jean-Patrice Brosse. À l'âge de 71 ans, le 18 septembre dernier, claveciniste, organiste, président du Festival de Comminges dès 1975. Jean-Claude nous dit avoir eu la chance de l'entendre en concert sur l'orgue de Cognac, où la Société des Concerts de Cognac l'avait invité dans les années 90. Un musicien attachant, curieux, créatif, il nous a offert un magnifique concert Bach sur l'orgue de l'église de Cognac, donc cet orgue d'esthétique plutôt romantique, mais dont Jean-Patrice Brosse a su tirer le meilleur, un concert qui avait emballé ceux qui étaient venus l'entendre. Il est curieux, Jean-Claude, de nous faire entendre Jean-Patrice Brosse sur l'orgue de Saint-Bertrand de Comminges. Il nous avoue ne pas connaître cet enregistrement-là. Nous l'avons trouvé avec l'aide de Nicolas Bichet de la discothèque de Radio France. Voici le trio de l'une des quatre pièces pour orgue de Claude Balbastre, Jean-Patrice Brosse, sur l'orgue de la cathédrale de Comminges. Thank you. son de l'orgue de la cathédrale de Comminges sous les doigts d'un musicien qui nous a quitté récemment, Jean-Patrice Brosse. À l'instant, dans le trio en mi mineur, l'une des quatre pièces pour orgue de Claude Balbastre. Une très belle découverte. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour ces idées. Et dans quelques instants, à 7h59, eh bien, c'est la suite de votre programmation musicale.
Dans quelques instants, je serai sur la scène du Met.
Sur francemusique.fr, découvrez le journal intime de Maria Callas, podcast original pour la famille. Traversez en 7 épisodes la vie fascinante de Maria Kalogeropoulos, devenue la diva du XXe siècle, la célèbre Callas.
Quand je ne chante pas, j'aime beaucoup faire la cuisine.
Le journal intime de Maria Callas, un podcast de 7 épisodes, incarné par Carole Bouquet et écrit par Marianne Vourche. À écouter en illimité sur francemusique.fr et l'application Radio France.
Bienvenue dans la deuxième partie de France Musique est à vous. Dans quelques secondes, il sera 8h. Merci de vous réveiller avec France Musique. Merci pour vos nombreuses idées musicales qui nous arrivent. En direct déjà, quelques-unes qui viennent de vous. Nous écouterons Forêt, Nina Simone ou encore Shostakovich d'ici 9h. Vous pouvez donc interagir avec nous, réagir sur les suggestions des uns et des autres et nous proposer ce que vous voulez, vous aussi, via les réseaux sociaux de France Musique. Et notre mail, France Musique est à vous, radio@radiofrance.com. À 8h50, dans moins d'une heure, la chronique Tendez l'oreille de Christophe Dillis qui, ce matin, va nous faire écouter la musique atonale de Brahms et Chopin. Et tout de suite, celle de Marc-Olivier Dupin, une œuvre, trois idées.
Une œuvre, trois idées. Marc-Olivier Dupin.
Un plaisir de vous voir, Marc-Olivier, bonjour.
Mais partagé, bonjour Gabrielle.
Alors, nous allons aborder ensemble un répertoire bien singulier ce matin.
Oui, Gabrielle, une œuvre du groupe pop-rock, les Pink Floyd. The Dark Side of the Moon, pour moi, un chef-d'œuvre.
Un disque de 1973, hein, il me semble.
Oui.
Quelle est la première idée dont vous souhaitez nous faire part ?
Alors la première chose qui me frappe dans cette œuvre est sa forme de lyrisme vocal. Certes, pas du tout avec la même vocalité que dans l'opéra baroque classique ou romantique, mais ce chant qui trouve ses sources dans le blues a une réelle puissance dramatique. Au risque de faire un rapprochement sacrilège pour les fous d'opéra, je dois dire que ce lyrisme fait penser à une toute autre musique, sublime et dans un tout autre genre, le bouleversant trio final du Chevalier à la Rose, avec ses harmonies très larges, très étendues et les mélismes qui se développent sur de voluptueuses nappes sonores. Un exemple de musique planante, un autre.
La comparaison est osée, Marc-Olivier, mais ça vous va bien. Et votre deuxième idée alors ce matin ?
Alors c'est précisément l'importance de l'harmonie, ça c'est des choses dont je pourrais quasiment parler dans chaque chronique, mais pour poursuivre la comparaison fragile avec cet extrait du Chevalier à la Rose, l'harmonie dans The Dark Side of the Moon est également d'une très grande pureté, très sophistiquée, sous des airs simples, et très soignée. On peut dire que chez les Pink Floyd, le langage harmonique n'est jamais complètement éloigné de la Renaissance et du baroque. Et comme disait le grand claveciniste Gustav Leonhardt, le langage harmonique de la pop et du rock s'inspire pour partie du langage de Rameau. Small world. Écoutons cette sorte de passacaille aux harmonies lentes, nourries d'effets technologiques impressionnants pour cette époque des années 70. And down, down, down.
Votre première idée, donc, le lyrisme vocal. La deuxième, l'importance de l'harmonie. Et votre troisième est liée au foisonnement musical des années 1970, justement.
Oui, l'enregistrement de Dark Side, comme vous le disiez, est de 1973. Or, les années 1970 sont extraordinaires dans l'évolution du répertoire vocal tous azimuts. On y trouve la voix dans tous ses états. En 1974, Berio compose les Cries of London, Stockhausen écrit Inori, en 76, Phil Glass crée Einstein on the Beach, et Ligeti compose son opéra Le Grand Macabre entre 74 et 77. En voici un extrait avec la fantastique Barbara Hannigan dont vous parliez
il y a peu.
La vidéo d'ailleurs en vaut le détour.
La voix, la performance de Barbara Hannigan donc dans Le Grand Macabre de Ligeti, impressionnant. Alors, pour retrouver les enregistrements des Pink Floyd.
Alors, comme pour toutes ces œuvres pop-rock, l'enregistrement original est à privilégier, bien qu'il y ait eu beaucoup de transcriptions d'ailleurs, pour toutes sortes de formations. Mais je ne saurais trop vous recommander de vous plonger ou replonger dans l'ensemble des enregistrements du groupe, cher Gabriel.
Absolument, ça donne bien envie. Merci beaucoup Marc-Olivier Dupin. Pour cette chronique, une œuvre, trois idées, évidemment à retrouver, réécouter sur notre site francemusique.fr. Réécoutez également sur l'appli Radio France. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Gabriel Olivier Aguillon. France Musique est à vous. Thank you.
À 8h16, à l'instant, 11 minutes offertes par Pierre-David au Mans, auditeur qui nous a suggéré ce fameux adagietto de la 5e symphonie de Gustav Mahler par Leonard Bernstein, qui dirige l'orchestre philharmonique de Vienne, un chef dont l'auditeur est passionné. Cette interprétation est magnifique et le mot est faible, nous écrit-il. Ceci pour rappeler ce chef-d'œuvre aussi cinématographique de Visconti, Mort à Venise. D'après la nouvelle de Thomas Mann, trois génies dans une œuvre, c'est assez rare, je trouve, et c'est mon film fétiche. L'interprétation de Bernstein est d'une finesse, d'une chaleur, d'une justesse sans précédent. On a atteint ici un sommet jamais égalé. De plus, ce film évoque une épidémie, ça ne vous rappelle rien, mais celle dans le film est taboue car il s'agit du choléra. Et la cité lacustre est aussi une ville touristique à l'époque, ce qui a des conséquences très graves. Et évidemment, profiter grâce à vous de 11 minutes de cet adagietto nous aura peut-être donné envie de revoir ce film ce week-end. Et puis après, Mahler, l'élégance, le raffinement de Gabriel Fauré. Avec vous, Rémi, bonjour.
Bonjour Gabriel, ravi de vous avoir au téléphone.
Eh bien moi aussi, bienvenue dans France Musique est à vous. Vous êtes à Lyon et vous êtes chef de chœur.
Exactement.
Quels ensembles dirigez-vous ?
Je dirige plusieurs ensembles de chœurs d'adultes et d'enfants, notamment chansons pop, et puis un petit peu de chansons sacrées, puisque j'interviens dans des établissements aussi catholiques. Mmh. Et donc, le Requiem se trouve tout près.
Le Requiem de Fauré, que vous nous avez suggéré par Instagram, In Paradisum, précisément cette partie-là, ce Requiem, il a une histoire particulière, hein, il a voilà, cette tendresse aussi dedans qui réconforte.
Exactement, il y a un côté tout à fait délicat dans son écriture, c'est certainement le chant grégorien qui ressort, mais ce chant grégorien un peu modernisé, coloré avec quelques chromatismes, quelques accords nouveaux, une harmonie en fait toute fine, et toujours apporté en douceur, en délicatesse. C'est touchant.
Il écrivait lui-même par rapport à la mort, c'est ainsi que je la sens, comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d'au-delà plutôt que comme un passage douloureux. Et ça se sent aussi dans la musique.
Exactement. C'est tout à fait doux. Il invite à la confiance, presque à quelque chose de maternel dans ce final.
Vous l'avez chanté, ce Requiem de Fauré, avec vos élèves, vos différents ensembles ?
Eh bien, pas encore. J'espère que ça viendra. On a eu chanté le Cantique de Jean Racine. Et c'est d'ailleurs ce cantique qui m'a permis de découvrir et le répertoire de Gabriel Fauré et ce Requiem qui m'a scotché. Son caractère intemporel se dégage complètement dès les premières mesures avec l'orgue. C'est tout à fait surprenant.
Intemporel.
C'est l'écriture qu'il nous propose.
Oui. Intemporel, vous dites, la première version date de 1887 et puis il l'a revisité hein, plusieurs fois jusqu'en 1901. Et vous-même, vous faites le parallèle avec plusieurs chansons pop. Vous nous parliez de ce répertoire aussi un peu plus ouvert que vous chantez avec vos élèves. Là, vous avez comparé ce Requiem de Fauré dans nos différents messages avec plusieurs chanteurs. Chanteuse.
Exactement, notamment Jeanne Haddad et son Falling Heart qui sort en 2018. En fait, il y a des couleurs synthétiques dans la musique de Jeanne Haddad que l'on pourrait presque sentir dans les premières mesures de l'orgue de ce morceau. C'est aussi le jeu avec le temps. On dirait que le temps est complètement suspendu. Certainement, c'est par l'écriture de la formule d'accompagnement qui rompt cette symétrie à laquelle on s'attend souvent. Et qui du coup nous transporte dans quelque chose de plus éternel, de plus contemplatif.
Et Rémi, ce matin, vous vouliez l'interprétation de l'orchestre et le chœur de Paris avec Paavo Järvi.
Exactement, une interprétation toute douce, toute pudique, mais en même temps extraordinairement riche. Et c'est peut-être cette pudeur moi, qui m'a touchée particulièrement dans cette interprétation aussi.
Le grandiose et la pudeur en même temps grâce à Gabriel Fauré. Merci beaucoup Rémi. Très bonne continuation avec vos différents chœurs et n'hésitez pas à revenir. Vous êtes le bienvenu.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Bon week-end.
À vous aussi. Au revoir.
Thank you.
La délicate douceur d'In Paradisum, extrait du Requiem de Gabriel Fauré, interprété par le chœur et l'orchestre de Paris, dirigé par Paavo Järvi, un disque de 2011 avec également les voix de Philippe Jarouski dans le Pillé Jésus et de Mathias Görneux dans le Libérame. Merci d'être avec nous sur Instagram, je vous vois Renaud, Sabine, Mylène ou encore Valentin et Paul, également sur Facebook, Vincent. Et puis, à 8h24, Valérie nous a contacté, elle aussi, par Instagram et nous a ensuite laissé ce message vocal que nous écoutons. Et vous aussi, si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas à notre adresse mail francemusiqueestavous@radiofrance.com est là aussi pour ça.
Ce concerto de Cimarosa, pour moi, c'est le cours de danse que je prenais quand j'habitais en Allemagne, il y a 15 ans. On faisait l'échauffement à la barre sur cette musique, mais je ne l'ai pas entendue pendant des années et je ne savais pas qui était le compositeur. J'ai cherché en chantant des mélomanes, des professeurs de musique et même dans un magasin de musique. Un jour où je me rendais rue de Rome pour rendre le saxophone d'un de mes enfants qui voulait arrêter la musique, au moment précis où je suis arrivée devant le magasin, j'ai entendu à la radio les premières notes de ce concerto et j'ai eu la joie de l'écouter à nouveau et de découvrir le compositeur.
François Leleu au hautbois avec l'orchestre de chambre de Munich dans ce larghetto du concerto pour hautbois de Domenico Cimarosa dans un arrangement signé Arthur Benjamin. À 8h28, merci d'être avec nous. France Musique est à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et voici un message de Jean qui est à Paris dans le 15e. Il nous dit aimer le jazz, le classique et l'art brut. Et il aimerait écouter ce matin dans notre émission de Nina Simone, Mr. Bojangles et un clin d'œil au livre d'Olivier Bourdeau qui m'a permis de découvrir cette pépite. Livre triste et joyeux, coucou Boris Vian, bien en accord me semble-t-il avec la chanson. Le titre du livre en question, c'est En attendant, Bojangles. Sous le regard émerveillé de leur fils, des parents dansent sur cette chanson. Mr. Bojangles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Et c'est donc un livre signé Olivier Bourdeau. La voici, Nina Simone. C'est une joie de l'écouter ce matin.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke. He laughed and slapped his leg as dead. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Said his name, Bojangles, then he danced the lick across the sand. He grabbed his pen, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, and he said, I dance now at every chance and honky tonks for drink. Tips. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink a beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.
Nina Simone sur France Musique avec cette chanson Mr. Bojangles. Bonjour à Sabayaz, Thomas Corrège, Iron de Zéro, Mr. Square, Umberto au Mexique ou encore Garam sur Twitter. Merci pour vos idées qui nous arrivent, dont certaines évidemment que nous écouterons d'ici 9h ou bien la semaine prochaine, nous prendrons contact avec vous évidemment. Et avec nous ce matin, en ligne, François, bonjour.
Bonjour Gabriel et bonjour à tous les auditeurs.
Vous habitez Chantilly, vous êtes un fidèle auditeur de France Musique. Nous dites-vous, que faites-vous dans la vie, François ?
J'étais agent administratif, là, je suis au chômage, donc je recherche du travail pour l'instant.
Et quel est votre rapport à la musique ? Vous en jouez ? Vous l'écoutez ?
Oh non, malheureusement, j'ai une culture musicale très très sommaire, à part écouter France Musique. Mais j'ai aucune notion théorique, notre solfège.
Écoutez France Musique vous apprend, vous apporte des choses.
Oui, j'écoute de la bonne musique, parce que vous diffusez de la bonne musique, mais je n'ai aucune notion de solfège, dès que ça devient un peu de la musicologie, j'ai du mal à vous suivre.
Et alors ce matin, vous vouliez commémorer un triste anniversaire, les 80 ans du massacre de Babillard, en 1941, où... des dizaines de milliers de juifs de l'Union soviétique de Kiev, précisément, ont été massacrés.
Oui, les 29 et 30 septembre 1941, oui. Il y a eu 33 000 juifs qui ont été massacrés en deux jours. Et donc j'avais l'idée au début de vous demander de diffuser la symphonie numéro 13 de Dmitri Shostakovitch,
qui porte ce nom,
Babillard. Le format, je pense, n'était pas adapté à l'émission. Donc j'ai cherché dans ses œuvres... ce qui pouvait se rapprocher, donc je suis tombé sur de la poésie populaire juive. Donc c'est une œuvre que je ne connais pas. D'habitude, les auditeurs vous présentent des œuvres qu'ils connaissent et qu'ils apprécient. Donc pour moi, ça va être une découverte.
En tout cas, c'est pour ça
que je vous avais laissé le choix de l'interprète, enfin des interprètes.
Absolument, de la poésie populaire juive, l'opus 79 de Shostakovitch. On va écouter sa berceuse ce matin. C'est vrai qu'on parle assez peu de ce massacre-là, en tout cas cette année, de Babillard, ce triste anniversaire. Vous avez vous-même une histoire qui est proche de cela ou...
Non, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire et donc je sais que ce qu'on appelle maintenant la Shoah par balle, les massacres de juifs dans les pays de l'Est, c'est vrai très peu connu. En Occident. Et puis, donc, j'ai lu beaucoup de livres au sujet. Le livre noir sur l'extermination des Juifs, le livre Babillard d'Anatoli Kuznetsov. Et puis, par ricochet, donc, je connaissais l'œuvre de Shostakovitch. Mais sinon, j'ai aucune relation directe.
Alors Shostakovitch donc a composé ses 11 mélodies de l'opus 79 en 48 et puis elles ont été créées ensuite avec l'accompagnement piano en 55 et puis orchestrées en 64 donc quelques années plus tard. Et là ce matin nous allons écouter la version alors nous allons choisir la version de l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam dirigé par Bernard Haitink.
C'est orchestre que j'ai pour la symphonie numéro 13.
D'accord. Oui, effectivement, ils l'ont enregistré sur ce même disque avec Ortrud Wenkel, contralto, donc dans cette berceuse. Merci beaucoup, François, de nous avoir parlé de vous, de cette musique de Shostakovitch, que nous écoutons d'ailleurs pour la première fois dans l'émission, cette berceuse.
Ça va être une découverte.
Eh bien, découvrons-la ensemble. Bonne journée, bon week-end.
Merci à vous, excellent week-end. Au revoir.
Berceuse, l'une des 11 mélodies de l'opus 79 intitulée De la poésie populaire juive de Chostakovitch, écrite pour trois voix. Là, nous n'en avons entendu qu'une seule, celle de la contralto Ortrun Wenkel, mais il y a aussi des mélodies pour soprano et ténor, des mélodies sur des traductions russes de poèmes populaires yiddish, donc composés en 1948 par Chostakovitch, comme nous l'avons dit avec Françoise. Et je vais vous citer ce que disait Chostakovitch à propos de l'origine de cette œuvre. Il dit « Un jour après la guerre, je passais devant une librairie quand j'aperçus un volume de chansons juives. M'étant toujours intéressé au folklore juif, je pensais que ce livre me donnerait les mélodies, mais il s'avéra ne contenir que les textes. Il me vint à l'idée que si je choisissais plusieurs de ces textes et les mettais en musique, je pourrais ainsi apporter mon témoignage sur le destin du peuple juif. C'était pour moi un geste important parce que je voyais l'antisémitisme grandir tout autour de moi, mais je ne pouvais pas faire jouer ce cycle à l'époque. » Merci donc François pour cette suggestion, cette très belle découverte de ce cycle de l'opus 79. Et tout de suite, nous passons à un tout autre répertoire entre classique et jazz. Vous allez l'entendre, un peu de voix également, un piano assez particulier. C'est René dans son message qui nous parle d'une pianiste accompagnatrice au CNSMD de Paris et de classe de danse et prof également au CM13. René, eh ben, c'est à vous.
Chers auditeurs de France Musique est à vous, cher Gabriel. Le samedi 20 mars, vous avez réservé un très bel accueil à la diffusion d'une libre interprétation toute personnelle de la pavane de Maurice Ravel par le trio de la pianiste Ryoko Noriki. C'est une facette quelque peu différente de Ryoko que je souhaiterais vous proposer aujourd'hui. Une tournée en piano solo effectuée en Bretagne en 2015 a donné lieu à un album sorti chez le label Los Productions intitulé « Le voyage en Bretagne ». Parmi les 13 morceaux composant ce CD, Chant de thé est le titre que j'ai sélectionné. Cette composition de Ryoko est un hommage à son grand-père. Alors, petite fille, elle a porté un cornet de glace que sa mère lui avait confié à son grand-père qui travaillait dans les champs. Donc voici Chant de thé par Ryoko Noriki.
Ooh, 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 ooh,
La pianiste japonaise Ryoko Noriyuki, qui est prof actuellement au CNSM de Paris, que l'on salue, et c'était l'un de ses titres du disque Le Voyage en Bretagne, titre intitulé Chant de thé, une suggestion de la part de René. 8h50. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Christophe Dillis, déjà en studio. Tendez l'oreille, c'est tout de suite.
France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dillis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Un sujet compliqué aujourd'hui, la musique atonale.
Et oui, en fait Gabriel, je m'aperçois dans mon parcours que plus ça va et plus ce qui m'intéresse sont les transitions dans la vie, dans l'art. Comment on passe le temps, comment on va d'un point A à un point B. En musique, chaque période de l'histoire apporte son lot de règles et de solutions pour conduire le temps. À l'époque médiévale, c'est la modalité qui modelait la mélodie et ses intervalles pour mieux chanter une prière. Plus tard, c'est plutôt un jeu de tension et de résolution qui allait conduire notre oreille au gré des sonates et des symphonies. Et puis, disons, allez, au XXe siècle, on a tout mis dans un sac avec l'étiquette atonale dessus et puis c'est tout.
Et puis donc aujourd'hui, Christophe, pour vous, vous trouvez ça un peu trop simple.
Absolument. Voici le début officiel pour le grand public de la musique atonale en Autriche au début du XXe siècle. On a essayé de résumer pour le grand public cette idée que tout à coup, le système tonal, le système de tension et de résolution qui a fait toute la carrière de Haydn et de Mozart, aurait explosé au début du XXe siècle, que les Viennois de la seconde école auraient officialisé la rupture avec le Ré majeur, avec une déflagration aussi forte que celle qui a porté la balle de Gavrilo Princip vers la jugulaire de l'archiduc François Ferdinand.
Alors Christophe, vous avez une révélation à nous faire ce matin.
Vous connaissez mon goût pour le spectaculaire, mais oui, pour le coup, j'espère bien créer un avant et un après cette chronique en vous parlant de la musique atonale de Schubert, Chopin ou encore Brahms.
C'est étonnant, effectivement. Les compositeurs romantiques auraient donc composé de l'atonale ?
Oui, si on décide de lire certains passages, comme de la musique atonale. Certains passages musicaux arrivent à tenir debout sans être dirigés vers une résolution, vers une tonalité.
Et on peut en parler aujourd'hui grâce à une théorie récente, Christophe.
Qui porte le nom de théorie néo-riemannienne, du nom de Hugo Riemann, musicologue allemand de la fin du 19e siècle. Dans les années 80, on ressort ses écrits sur les accords parfaits de trois notes, les triades, et on dégage un principe extrêmement simple. Au lieu de toujours aller vers Do majeur ou Sol mineur, par exemple, on peut quand même construire un discours. Mais en enchaînant les accords sur le principe de notes communes d'un accord à l'autre. On garde deux notes, on change une note et ça donne un nouvel accord. Pensez l'accord. Comme un triangle, vous avez un triangle qui a sur ses extrémités Do, Mi, Sol. Voilà, pensez vraiment à un triangle. Maintenant, on va garder Do et Mi, mais on va transformer le Sol en La. Maintenant, on va garder Mi et La, par exemple, et on peut transformer le Do en Do dièse. Et comme ça, on peut passer d'un accord à l'autre en transformant une note à chaque fois. Ce que vous allez entendre là, c'est de la musique atonale, dans le sens où elle ne va pas vers une tonalité. Et ainsi, ça vous donne des accords qui s'enchaînent bien, mais qui ne cherchent pas à être résolus vers une tonalité. Et une fois qu'on commence à relire avec les théories néo-riemanniennes tout le 19e siècle, ce siècle considéré comme tout ce qu'il y a de plus tonal, à part à la fin avec Wagner et Liszt, c'est assez vertigineux. On s'aperçoit que tout le répertoire est truffé de petites inclusions atonales. Prenez Brahms, son double concerto pour violon et violoncelle. Tous les accords s'enchaînent en transformant une seule note à la fois. Thank you. Et dans la vitesse, ça donne ceci, de la musique de Brahms atonale. Tendez l'oreille.
Christophe, il n'y a donc aucun doute sur les théories néo-riemanniennes ?
C'est là où le mot théorie prend tout son sens. Ce sont des théories. Je ne dis pas que je cautionne ou pas, je dis simplement que ça existe et que ça semble bien pratique pour relire ces mesures qui ne sont pas tonales mais qui ne sont pas dissonantes non plus, qui sont juste en apesanteur sans être magnétiquement attirées par une tonalité. Et ces moments d'apesanteur pourraient être lus à travers le prisme des théories néo-riemanniennes. Et oui, c'est récent, années 80, puis revisité en 2000-2005. Je réclame du temps pour vraiment travailler dessus et avoir du recul. Mais en tout cas, je ne serais pas étonné que ce soit aujourd'hui une première à la radio qu'on parle.
Vous avez dit
ça.
Qu'il y aura un avant et un après.
Oui, voilà. Je vous laisse donc avec Chopin qui passe d'un accord à l'autre en transformant une ou deux notes. À chaque fois, on ne sait plus en quelle tonalité on est.
Chopin, donc, à l'instant. Merci beaucoup, Christophe Dilis, pour cette chronique Tendez l'oreille. Je peux quand même avouer qu'hier après-midi, je vous ai appelé, vous m'avez dit que vous n'aviez pas votre sujet. Et là, ce matin, on apprend plein de choses. Vous avez eu le temps, donc, de lire cette nuit les théories de Hugo Riemann. Vous me fascinez quand même.
J'ai lu plein de thèses cette nuit, donc je n'ai rien inventé pour les plus grincheux des auditeurs. Tout est sourcé, tout est sur le site. Je n'ai rien inventé.
Et je vous fais absolument confiance. C'est justement pour ça que vous me fascinez. Très bonne semaine.
Vous me fascinez aussi. Bonne semaine à vous.
Merci beaucoup. Ainsi se conclut sur tous ces compliments. Notre émission, je vous dis à samedi prochain pour la suite. Une nouvelle France Musique est à vous. Merci pour toutes vos idées que nous écoutons ici grâce à vous. Nous continuons. C'est fabuleux de découvrir vos suggestions avec vos histoires. Merci à toute l'équipe, attachée de production Lisa Crépy, Élise Lejeune, notre discothécaire attitré Nicolas Bichet, David Travailleur à la réalisation et à la technique avec nous ce matin, Xavier Atto et Cindy Le Grumelec. Les réseaux sociaux de France Musique et notre adresse mail restent ouvertes toute la semaine, jour et nuit. Vous pouvez venir et nous vous répondrons. À notre jeu de 7h50, il fallait répondre La Voix Humaine, cette œuvre de Poulenc que Barbara Hannigan a chantée et dirigée à Radio France récemment. Vous avez gagné des invitations pour le concert de Barbara Hannigan, Salgavo, ce lundi 27 septembre, Alain et Myriam. Vous recevrez des invitations donc pour ce concert. Je vous souhaite une très belle journée et tout de suite, Charlotte Landru-Chandès, bonjour.
Bonjour Gabrielle.
Alors de beaux grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique, grâce à vous pendant 2 heures.
Oui, c'est aujourd'hui 100% violoncelle.
Merci beaucoup, bonne émission Charlotte et bon week-end.
Merci, bon week-end.
À réécouter sur francemusique.fr.